Chapitre 3. Monsieur d'Hautfort professait pour la bonté une religion presque mystique. Il essayait d'y conformer ses actes, quels que fussent les écarts de son caractère, et parvenait souvent à chasser les suggestions de ses premiers ou légitimes mouvements. Il n'était donc pas homme à troubler, même par une simple allusion, le bonheur de Frédéric, ni même celui de Fabien, dont l'embarras, quand il le voyait, l'eût touché sans le mépris profond qu'il étendait aux fautes d'autrui et aux mauvais procédés le concernant. Mépris orgueilleux qui disait dans sa pensée « Vous ne sauriez m'atteindre ». « Je suis réellement content de vous savoir si heureux », dit-il à Fabien d'un accent convaincu. « Votre affirmation est celle d'une amitié que je veux croire toujours existante, Gerbert. Voici plusieurs semaines que notre dissension est oubliée. Vous avez agi en ami peu généreux, mais ce n'est pas un crime. Je ne me rappelle que les bons côtés de nos relations. » Monsieur Dauzac n'en croyait rien. D'abord parce qu'il était assez naturel de ne pas le croire, ensuite et surtout parce que son esprit ne pénétrait pas dans certaines régions morales. Il affecta de prendre à la lettre les paroles amicales prononcées avec beaucoup de tranquillité et il tendit la main à Gerbert. « Moi, je n'oublie rien de notre amitié, rien de ses conséquences, dont je serai toujours reconnaissant. » Il s'aperçut que M. d'Hautfort répondait mollement à son étreinte et s'en offensa. Gerbert, trop clairvoyant pour ne pas remarquer l'impression de Fabien, se reprochait déjà sa secrète défaillance. Il s'empressa de la corriger en disant toujours du même ton tranquille et très simple « Mon amitié ne saurait assez vous féliciter. Mademoiselle Laurel sera bien la femme des bons et des mauvais jours. » « Je le crois, je le sais, » répondit Fabien avec ferveur. « Son bon jugement, sa gaieté, sans parler de ses autres qualités, me soutiendront dans mes entreprises. Je suis ambitieux, vous le savez. » « Je le comprends et j'aime les ambitieux. » Car sans ambition, à quoi arrive-t-on ? À rien. Cependant, le mot « entreprise » sonne mal à mes oreilles. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'entreprises financières ou commerciales, et sur ce terrain, l'entraînement de nos jours est facilité par le fléchissement des consciences. Vous ne me croyez pas capable de ce fléchissement, je suppose ? Non, Fabien, mais il est souvent difficile, dans le cercle des affaires, d'éviter des promiscuités compromettantes. Je connais assez les hommes pour être clairvoyant, prudent par conséquent, et je me sens fort pour réussir, puisque j'ai déjà augmenté ma fortune. Tant mieux, la confiance en soi-même est une force nécessaire pour parvenir au succès. De la mélancolie percée dans la réponse, faite en souriant. Une semaine plus tard, les fiancés recevaient un magnifique service de table en fine porcelaine, délicieusement décoré. Au remerciement, M. d'Hautfort répondit avec gaieté « Premier pas dans la vie luxueuse que je prévois pour vous. » Peu de temps après, il alla chez M. Dauzac pour lui apprendre son prochain départ. Le ministère lui ayant paru tout à coup un non-sens ridicule, il avait envoyé sa démission et commencé ses préparatifs de voyage. Chez Fabien, il rencontra M. Laurel, dont la bonne figure et le jugement sain lui plurent sans réserve. Il admirait presque la simplicité toute ronde de l'excellent homme. En face de supériorité sociale, elle provenait d'une absence totale d'envie ou d'ambition qui n'eût reposé sur rien. Laurel, dans sa genèse, se plaisait à répéter que ses facultés, aussi modestes que sa naissance, ne lui permettaient aucun désir dénué de bases sérieuses. « Chacun à sa place, voilà ma devise », disait-il aux agitateurs de la société. Seul avec Fabien, M. d'Hautfort lui dit « Le bon jugement de Mademoiselle Laurel ne m'étonne plus. » « Pourquoi ? Il ne m'a jamais étonné. » « Je crois à l'atavisme. Elle hérite du bon sens de son père. Le bon visage et le brave homme. » Il partit pour l'Italie et, de Rome, écrivit à Madame de Paulin qui lui avait envoyé un mot où, entre les lignes, il découvrait la compassion d'un cœur délicat. « Chose bizarre, madame et amie, que votre bonté, quand elle s'adresse à mes sentiments intimes, me révolte et m'attendrit en même temps. Elle révolte mon orgueil masculin, et si je ne la voyais pas dans votre lettre, je serais déçu. Ainsi, en contradiction avec moi-même, je vous envoie un merci. Pour répondre à votre sollicitude, je vous dirai que, arrivé ici, assez battu de l'oiseau, je m'apesantissais sur la chimère disparue. Mais je suis plongé dans les grands souvenirs, dans la poésie de cette Rome admirable, et j'ai constaté que les rumeurs du chagrin s'apaisent en face de civilisations disparues et de renaissances remarquables. Peut-être parce que l'importance de la personnalité diminue singulièrement. Vous voyez, cher ami, que je n'étais pas bien malade et que la pitié voilée, caractéristique de votre bonté, doit s'étendre sur un autre objet que votre serviteur. J'ai reçu une excellente lettre de Dauzac. Il me paraît nager dans le bonheur, bien que, par délicatesse, il ne précise rien. Mais ses projets ont l'accent d'un homme heureux. Que le destin protège ce bonheur. Malheureusement, chez Fabien, des tendances trop ambitieuses m'effraient. Je voudrais suivre de loin sa marche audacieuse. Le pourrais-je ? Pourquoi de loin, me direz-vous ? Parce que je rêve de grands voyages. En attendant, mon intention est de passer un temps fort long sur la Riviera, à Beaulieu, cet endroit si joli, si calme, tranquille malgré les touristes. En passant, j'ai déjà loué une villa. Si vous daignez venir m'y voir, vous ferez un heureux. Respectueux et affectueux hommages.